Ça mange bien. C'est bon. Bonjour tout le monde. Merci à la louange pour ces chants. Aujourd'hui, nous allons voir le psaume 8, l'un des plus connus de tout le répertoire. Il y a juste à voir tous les chants qui ont été inspirés par ce psaume. J'aime particulièrement celui d'impact, infiniment grand, où on a l'impression que le chanteur, comme David, au milieu du chant, en contemplant la grandeur de Dieu, ne peut s'empêcher de s'arrêter et de louer. Et il répète « Alléluia, que Dieu soit loué 6 fois ». David a vécu cette expérience. On va le voir ensemble. Vous connaissez sûrement cette expression « L'homme est la mesure de toute chose ». Elle a été écrite 5 siècles avant Jésus-Christ. Pourtant, elle est tout à fait dans l'air du temps. Aujourd'hui encore, tout ramène à l'homme, l'homme au centre, l'homme comme référence, l'homme comme point de départ. Mais le psaume 8, lui, nous amène ailleurs. Il nous dit en quelque sorte, lève les yeux. Et quand on lève les yeux, on comprend vite une chose. Nous ne sommes pas au centre de l'univers. C'est Dieu qui règne en majesté. Combien de fois majesté est revenue dans ces chants. Mais encore faut-il lever les yeux. Pas juste en passant comme ça. Je parle de ce moment où tu t'arrêtes, où tu regardes vraiment, tu es dehors, tu lèves les yeux, et là, tu vois un ciel comme tu n'en vois jamais. Une question alors te traverse l'esprit. Mais qu'est-ce que je représente moi dans tout ça? Et tu sais quoi? Parfois être petit, ça repose, ça calme, ça remet les choses à leur place. C'est précisément là qu'est David. Quand il écrit ce psaume, il est dehors, il n'est pas en train de fuir quelqu'un, il n'est pas en train de se lamenter, il n'est pas en train de demander quelque chose à Dieu. C'était son quotidien. Là, il est juste en train de regarder le ciel. David lève les yeux. Et alors, pour lui, tout s'aligne. La grandeur de Dieu, la petitesse de l'homme, et la grâce qui relie les deux. Le psaume commence par une louange et il finit pareil. Comme si David disait, tu veux comprendre ta vie, commence par Dieu, termine par Dieu et entre les deux. Ce n'est pas un texte pour admirer le ciel, ce n'est pas un texte pour se regarder le nombril non plus, c'est un texte pour remettre l'homme à sa place, sous le regard de Dieu. Et plus encore, on va voir ça, ça prépare le terrain pour l'homme parfait, celui que David annonce sans même comprendre la profondeur de ce qu'il écrit. Mais avant d'aller plus loin, juste une question pour chacun de vous. Quand as-tu levé les yeux pour la dernière fois? Je ne parle pas de regarder le plafond en soupirant, ça on sait tous très bien le faire. Je parle de vraiment lever les yeux, de sortir un instant de ta bulle, de tes pensées qui tournent en rond, de tes soucis qui prennent toute la place, de tes écrans qui t'absorbent aussi, et de regarder quelque chose qui te dépasse. Parce qu'il faut le reconnaître. On passe beaucoup de temps à regarder vers le bas, vers nos problèmes, nos limites, nos inquiétudes, vers nos chaussures même, comme si elles avaient une révélation à nous donner. Et quand on regarde toujours vers le bas, on finit par croire que le monde se résume à ce qu'on voit à hauteur de pied ou de nombril. Dieu lui-même nous dresse cette invitation. Ésaïe 40, 26. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé toutes ces choses? C'est comme si David disait « Stop ». Michel nous l'a dit tout à l'heure. Lève les yeux. Regarde ce que tu ne regardes plus. Regarde ce que tu as laissé s'éteindre. Et le psaume 8 fait pareil. Il te prend par la main, comme un père prend son enfant par la main. Et il te dit, regarde là-haut. Regarde plus loin que toi. Regarde plus haut que toi. Et quand tu fais ça, il y a quelque chose qui se passe. Tu te sens petit, oui, mais tu ne te sens pas écrasé. Tu te sens juste replacé. David regarde le ciel et il voit la grandeur de Dieu. Et en même temps, il voit sa propre petitesse. Mais ce n'est pas quelque chose qui humilie. C'est une petitesse qui émerveille. Parce que David ne dit pas « je suis petit, donc je ne vois rien ». Il dit « je suis petit, et pourtant, Dieu pense à moi ». Et ça, c'est un mystère qui traverse toute la Bible et chacune de nos vies. Au psaume 144, David redira la même chose. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? La même question. C'est quelque chose qui a beaucoup travaillé David. Pourquoi Dieu se soucie-t-il de nous? Pourquoi pense-t-il à nous? Pourquoi nous aime-t-il autant? On va marcher avec David pour comprendre cela. On va lever les yeux avec lui. On va regarder le ciel et on va découvrir ce que Dieu voit quand il regarde l'homme. Parce que bien plus qu'un chant sur la création ou un chant sur l'homme, c'est un chant sur la place de l'homme dans le plan de Dieu. Et encore au-delà de tout ça, c'est un chant qui pointe vers l'homme parfait, celui qui accomplit pleinement ce que nous avons perdu. Alors on ouvre le texte, je vous invite à ouvrir vos Bibles, le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Maintenant, pour qu'on avance ensemble, je vous donne le chemin qu'on va suivre. Rien de compliqué, rien de technique. Prédication courte, légère, mais qu'on a besoin d'entendre. Il fait chaud, je ne vais pas m'éterniser. Juste quatre étapes. Comme une petite promenade à travers le psaume. Rassurez-vous, si vous êtes venu en claquette, il n'y a pas besoin de chaussures de randonnée, juste avoir un cœur disponible. D'abord, on va regarder la grandeur de Dieu. Ensuite, on va regarder la petitesse de l'homme. Puis on va découvrir la dignité que Dieu donne à l'homme. Et enfin, on va revenir à ce qui tient le tout ensemble, la louange. Première partie, donc, la majesté de Dieu au-dessus de tout. David commence son psaume d'une manière qui devrait nous inspirer plus souvent. Il commence par Dieu. Pas par ses problèmes, mais par Dieu. Et cela remet tout en perspective. Il dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ». C'est une ouverture qui donne le ton, qui oriente le regard, qui rappelle qui règne vraiment. Combien de fois nos prières commencent par « Seigneur, j'ai un souci. Seigneur, j'ai une question. » Seigneur, j'ai besoin de toi. David commence, lui, par « Seigneur, tu es magnifique. » Et je crois que c'est quelque chose qu'on a laissé s'atténuer. On commence trop souvent par nous, par nos besoins, nos inquiétudes, nos urgences, nos émotions. David, lui, commence par Dieu. Et c'est ça qui donne la direction du psaume. Tout s'éclaire à partir de là. Quand il dit que ton nom est magnifique sur toute la terre, il ne parle pas d'un joli paysage, d'un coucher de soleil, magnifique aussi, comme on l'en voit sur les fonds d'écran. Il parle de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Notre Dieu est beau, il est majestueux, nous venons de le chanter. La création n'est pas la star, elle est le panneau publicitaire qui pointe vers quelqu'un d'autre. Tout le monde connaît ce verset. Les cieux raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand David regarde le ciel, il ne voit pas seulement des étoiles, il voit la signature de Dieu, comme un artiste sur son œuvre. Dieu signe le ciel. Et David le sait, il le voit, il en rend témoignage. Et ce qui est beau, c'est qu'il dit « Éternel, notre Seigneur ». Pas un Seigneur, pas le Dieu des autres, notre Seigneur. C'est intime, c'est proche, c'est relationnel. Le Dieu qui a semé les galaxies dans le ciel n'a pas perdu ton nom en route. Et ça devrait déjà nous arrêter. Parce qu'on a parfois du mal à faire confiance à quelqu'un pour venir arroser les plantes pendant l'été. Dieu, lui, fait tomber chaque goutte de pluie là où il a décidé. Et si il détermine la trajectoire de chaque goutte de pluie, nous ne sommes pas oubliés, nous non plus. Et David va en remettre une pièce dans la machine. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Autrement dit, même le ciel n'est pas assez grand pour contenir la grandeur de Dieu. Même l'univers n'est pas assez vaste pour exprimer qui il est. Même les galaxies ne suffisent pas à raconter sa gloire. On peut se sentir dépassé par tous ces mots venus de l'espace. Ésaïe 40. Non, je n'ai pas. Le met à l'échelle terrestre. Il nous dit, qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main ? Dieu tient tous les océans, comme toi tu tiens une goutte d'eau dans ta main. C'est ça la grandeur de notre Dieu. Et pourtant, Dieu se laisse appeler notre Seigneur, et même notre Père. C'est incroyable. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est ce que David dit juste après. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Vous ne trouvez pas ça étrange ? Moi, oui. On s'attendrait plutôt à... par la puissance des étoiles, la force des montagnes, la grandeur des océans. Mais Dieu choisit les bébés, les enfants, les faibles, les petits. Pourquoi il fait ça ? Parce que Dieu aime renverser nos catégories. Il veut nous rappeler que sa puissance ne dépend pas de la nôtre. Il veut nous révéler que sa gloire ne dépend pas de nos performances. Il nous prouve que sa grandeur n'a pas besoin de notre grandeur. Il se sert de ce qui est petit, de ce qui est fragile, de ce qui est simple. Et ça, c'est rassurant. Parce que ça veut dire que Dieu peut se servir de toi, de moi, de nous tous. Encore heureux que l'homme n'ait pas la mesure de toute chose. Car Dieu ne calcule pas avec nos faiblesses, mais avec sa grâce. Donc on est là, David regarde le ciel, il y voit la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu, sa puissance, mais aussi sa sagesse. Et en même temps, il saisit sa juste dimension. Et ça lui permet d'aller plus loin. Parce que David ne se méprise pas, il s'émerveille. Dieu pense à lui malgré sa petitesse. Et c'est là que la tension commence à monter. La distance entre l'infini et le fini devient presque palpable. Plus David contemple la grandeur de Dieu, et plus il se pose une question. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme face à un univers aussi vaste ? Qu'est-ce que l'homme face à une création aussi vaste ? Qu'est-ce que l'homme face à un Dieu encore plus grand que tout cela ? Et c'est ce que David va développer dans la suite du psaume. Partie 2, la petitesse de l'homme devant l'univers. Donc David vient de contempler la grandeur de Dieu, il vient de lever les yeux, il vient de reconnaître la majesté du Créateur. Et maintenant, il se tourne vers lui-même. Et là, il se pose une question qui a traversé tous les siècles. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Une question que tout être humain s'est déjà posée, même sans le dire. Ce moment où tu te sens minuscule devant l'immensité. David vit cette réalité. Il regarde le ciel, la lune, les étoiles, l'univers, et il se dit, mais qu'est-ce que je suis moi dans tout ça ? Et je crois qu'on se pose tous cette question. Peut-être pas la version théologique, pas la version cours biblique à Lagrange ou la version philosophique, juste la version du quotidien, la version du soir où tu es fatigué, la version du matin où tu n'as pas envie de te lever, la version des moments où tu te sens inutile, dépassé, oublié. On se compare, on se dévalorise, on se dit qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela. Et parfois on se demande même si Dieu a vraiment le temps de s'occuper de nous. David, lui, ne cache rien. Il regarde le ciel, il se sent petit, vraiment petit. Tu sais quoi ? C'est normal. C'est même ça. Parce que quand tu regardes la grandeur de Dieu, tu réalises forcément ta petitesse. La Bible le dit aussi. Et encore une fois, C'est Ésaïe 40 qui nous aide à comprendre. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. C'est fort. Et si tu sens que ça pique un peu, c'est normal. Mais rassure-toi, ce n'est pas une pique personnelle. C'est juste la parole qui remet les proportions. C'est radical, brutal, mais c'est vrai. Même les plus grands empires, même les plus grandes puissances sont comme un rien devant Dieu. Alors toi, moi, notre petitesse n'a rien d'étonnant. Elle est logique, elle est normale, elle est même bonne. Parce que cette petitesse-là, je le répète, ne nous écrase pas. Elle nous replace, elle nous libère, elle nous ramène à la vérité. Parce que la vérité remet l'homme à sa juste place, mais surtout Dieu à la sienne. C'est une humilité qui ouvre les yeux, une juste mesure qui remet les choses à leur place. David n'est pas écrasé par ce qu'il découvre, au contraire. Il est ébloui. Malgré ce qu'il est, Dieu le voit. Dieu se souvient de lui et prend soin de lui. Et ça, c'est incroyable. À l'échelle du cosmos, il faut le dire, on ne pèse vraiment pas lourd. Même les jours où notre ego essaie de compenser. Mais Dieu, lui, nous voit. Il nous connaît, il nous aime, il se souvient de nous. David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Le mot homme, Enoch en hébreu, signifie l'homme fragile, mortel. Sûrement pas un héros, mais un homme cassable. Et le fils de l'homme, Ben Adam en hébreu, c'est une expression hébraïque pour dire un homme ordinaire. Un être de poussière, ce n'est pas le titre messianique que Jésus emploie. Dieu se souvient de quoi nous sommes faits. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de doute, c'est une question d'adoration. David n'est pas en train de dire « l'homme ne vaut rien », il dit « l'homme est minuscule » et pourtant Dieu le regarde. Le mot « se souvenir », ce n'est pas juste « ah ouais, c'est vrai, celui-là j'avais oublié qu'il existait ». Dans la Bible, le mot « se souvenir » c'est agir. Genèse 8, juste après le déluge, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Se souvenir, c'est intervenir, c'est prendre soin, c'est aimer. Quand Dieu se souvient, Dieu agit. Dieu sauve, Dieu se rapproche. Et David continue. Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Prendre garde, ça veut dire regarder, protéger, accompagner, s'intéresser. C'est le verbe du berger qui compte ses brebis. Autrement dit, Dieu ne se contente pas de nous voir, il s'occupe de nous. On a trop tendance à l'oublier. Parce qu'on vit dans un monde où on doit prouver qu'on existe. Il faut presque justifier sa place. On doit montrer qu'on est utile. Qu'on est performant, qu'on est quelqu'un. Mais Dieu dit, tu n'as rien à prouver. Je te vois, je te connais, je prends soin de toi. Et c'est là que le psaume 8, on pourrait dire, devient un miroir pour nous. Un miroir qui nous montre deux choses en même temps, notre petitesse et la grandeur de l'amour de Dieu. Et ces deux vérités ne s'opposent pas, au contraire, elles se complètent. On pourrait même dire qu'elles se répondent. Tu es petit, mais tu es aimé. Tu es voulu, tu es précieux. Tu es petit, mais Dieu pense à toi. Dieu ne s'intéresse pas à l'homme parce qu'il est grand, mais parce que Dieu est bon. Notre petitesse ne repousse pas Dieu, au contraire. Elle devient le lieu où sa grâce nous rejoint. Et David, on va le voir, va encore plus loin. Parce que David ne s'arrête pas à la question. Il va que se poser les questions. Il ne reste pas dans l'interrogation passive, ni dans la contemplation du ciel. Il avance, il réfléchit, il médite. Il se souvient de la Genèse, de la création. Il se rappelle de la mission donnée à l'homme. Et il réalise quelque chose d'encore plus surprenant. Dieu ne se contente pas de voir l'homme dans sa petitesse. Il lui donne une dignité. Mais avant d'y aller, laisse-moi te poser une question. Une question qui va préparer ton cœur pour la suite. Quand tu te regardes, est-ce que tu te vois comme Dieu te voit ? Parce que si tu te vois seulement comme petit, tu vas passer à côté de la moitié du psaume. Et si tu te vois seulement comme important, tu vas passer à côté de l'autre moitié. Le psaume 8, lui, tient les deux ensemble. La grandeur de Dieu, la petitesse de l'homme et la dignité que Dieu donne à l'homme. C'est ce qu'on va voir maintenant. Dieu élève ce qui est petit. Partie 3. Donc jusqu'ici, nous avons vu deux choses. La grandeur de Dieu, la petitesse de l'homme. Et honnêtement, si le psaume s'arrêtait là, on se sentirait tous un peu écrasés. On se dirait, bon, Dieu est grand, moi je suis petit, fin de l'histoire. Mais non, Dieu ne s'arrête pas à notre taille. Dieu ne regarde pas seulement combien nous sommes petits. Il révèle combien nous sommes précieux. Et c'est ce que David découvre. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Presque un choc pour nous. Parce que tout ce qu'on pensait savoir sur nous se retrouve renversé en une seule phrase. On s'attend à « tu es petit, donc tu comptes pas ». C'est comme ça que le monde raisonne. Mais Dieu dit « tu es petit, mais tu as de la valeur ». Et pas n'importe laquelle. Dieu ne nous a pas mis une étiquette en promo dans le dos. Il nous a mis une couronne. C'est une valeur donnée par Dieu lui-même. David se souvient de la Genèse. Il se souvient que Dieu a créé l'homme à son image. Que l'homme a reçu une mission, pas n'importe laquelle, la gestion de la création. Rien que ça. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il réalise quelque chose d'incroyable. Dieu a élevé l'homme, non parce que l'homme le mérite, mais pas parce qu'il est fort ou brillant, non, juste parce qu'il a voulu. Dieu l'a décidé, Dieu a aimé l'homme. Il dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est presque choquant après tout ce qu'on vient de voir. Dieu donne à l'homme une couronne, une dignité, une responsabilité, une place dans son plan. Et vous voyez, pour nous, c'est là que le psaume devient, j'ai envie de dire, malheureusement concret. Parce que cette couronne, on ne la porte pas très bien. On le sait tous ici. On la perd, on la tord, on la laisse tomber, on la remplace par des couronnes en carton. C'est comme un enfant qui reçoit une couronne un peu trop grande pour lui, à la fête des rois. Elle glisse, elle tombe. Il la remet, elle retombe. Mais cette couronne, elle est à lui. Personne ne lui reprend. Et de même, Dieu nous laisse cette couronne. David dit, tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Alors attention, domination ne veut pas dire écraser ni abuser. Domination ne veut pas dire profiter non plus. Dans la Bible, dominer, c'est protéger, gérer, cultiver, prendre soin. C'est le rôle d'un intendant, pas celui d'un tyran. Dieu confie sa création à l'homme et lui dit, je te fais confiance. Prends soin de ce que j'ai fait, prends soin de ce que je t'ai donné. Et nous, comme des bons intendants, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les lumières allumées, on laisse couler l'eau, on abuse, on écrase, on tyrannise. Mais malgré ça, Dieu continue de nous confier sa création. Et là, David ne réalise sûrement pas, quand il écrit ces lignes, mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose qui dépasse l'homme, qui dépasse la création, quelque chose qui dépasse le psaume lui-même. Parce que, comme je viens de le dire, cette dignité, cette couronne, cette mission, l'homme ne l'a jamais portée parfaitement. Depuis la chute, on n'a pas que laissé tomber cette couronne, on l'a piétinée, on l'a volontairement oubliée. Et c'est là que le Nouveau Testament éclaire le psaume. Hébreux 2 nous dit que ce psaume nous parle de Jésus. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Il reprend les mêmes mots. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. En Christ, la couronne ne tombe plus. La domination devient protection. Le règne devient service. Il a vécu, il vit et il vivra ce que l'humanité aurait dû vivre depuis le début. Et c'est pour ça que ce psaume est une bonne nouvelle. Parce qu'il ne dit pas seulement l'homme a de la valeur. Il dit l'homme a de la valeur parce que Christ a restauré ce que nous avions perdu. Et vous voyez, ça change tout. Parce que ça veut dire que notre dignité ne dépend pas de notre performance, ni de notre passé. Elle ne dépend pas de nos échecs non plus, encore heureux. Pas plus que de notre niveau spirituel ou notre état émotionnel. C'est Dieu qui élève l'homme. Et David le résume en une phrase. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Parce que cette gloire n'est pas humaine. Elle est donnée par Dieu, confirmée par Jésus, scellée par la croix et la résurrection. Et quand tu comprends ça, tu lis le dernier verset du psaume autrement. Tu comprends pourquoi David revient à la louange. Pourquoi il termine comme il a commencé. Et tu comprends pourquoi tout le psaume tourne autour de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous valons, vient de lui. Et c'est là que David nous amène maintenant. La seule réponse possible, la louange. Comme dans le chant. Tu es infiniment grand. Alléluia. On arrive au dernier verset, le point final, la boucle qui se referme. David dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Exactement la même phrase qu'au début, mot pour mot, comme un refrain, un encadrement, comme si tout ce qui se trouve entre les deux n'avait qu'un seul but, nous ramener à Dieu. Ce n'est pas une répétition pour faire joli, ce n'est pas une formule poétique, c'est une théologie. Une vision du monde, une manière de vivre qui devrait être la nôtre. David commence par Dieu, David termine par Dieu, et entre les deux, il parle de l'homme. C'est comme si David disait, tu veux comprendre l'homme, tu regardes Dieu. Tu veux comprendre Dieu, regarde ce qu'il fait pour l'homme. Mais dans tous les cas, commence et termine par lui. Et à vrai dire, on a besoin d'entendre ça. Parce qu'on commence souvent par nous, on termine souvent par nous, et entre les deux, qu'est-ce qu'on fait ? On parle de nous. David, lui, nous montre notre chemin. Un chemin qui commence dans la louange, qui traverse la création. Un chemin qui passe par notre petitesse, tout en nous rappelant notre dignité. Et un chemin qui revient à la louange. C'est ça la beauté du psaume. Il nous montre que tout vient de Dieu et que tout retourne à Dieu. Quand David dit que ton nom est magnifique, il ne parle pas d'une émotion, d'un moment spirituel intense. Il parle d'une réalité objective. Qui ne dépend pas de notre humeur, qui ne dépend pas des circonstances, tout comme notre paix, on vient de le voir. Ce n'est pas un truc qu'on ressent. Le nom de Dieu est magnifique, toujours, partout, sur toute la terre. Point. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne comprends pas, le nom de Dieu est magnifique. Et c'est ça qui doit être le socle de notre louange. Ce n'est pas le cas. Trop de réussite, là on chante fort. Trop d'échecs, là, tout d'un coup, on devient très silencieux. David nous montre une louange qui repose sur Dieu, pas sur nous. Pas sur nos états d'âme. Une louange qui repose sur qui Dieu est, et Dieu ne change pas. David redit Éternel notre Seigneur, encore une fois, comme au début. Comme pour nous rappeler que ce Dieu immense, ce Dieu magnifique, est aussi un Dieu proche, un Dieu relationnel, un Dieu qui se laisse appeler notre Seigneur. Le Dieu des galaxies, est aussi le Dieu de ton quotidien. Le Dieu qui tient l'univers est aussi celui qui te porte. Le Dieu qui a placé les étoiles est aussi le Dieu qui conduit ta vie. Et c'est pour ça que David le loue. Pas parce qu'il a tout compris, ou bien tout réussi, mais parce qu'il a levé les yeux. Et qu'il a vu son Dieu. C'est ça la clé. La louange ne commence pas quand tout va bien. La louange commence quand tu lèves les yeux. Quand tu sors de ton cercle, quand tu regardes plus haut que toi, plus loin que toi, c'est là que le psaume devient christocentrique. Parce que Hébreux 2, on l'a vu, nous montre que ça parle de Jésus, l'homme accompli, celui qui a marché là où nous, nous avons trébuché. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi David revient à la louange et pourquoi il termine comme il a commencé. Un psaume où tout tourne autour de Dieu. Parce que notre vie, notre valeur, notre dignité, prennent leur source en lui. C'est pour ça que la louange est la seule réponse possible. Pas la culpabilité, pas la comparaison, pas l'orgueil, sûrement pas l'orgueil, pas la honte, mais la louange. Parce que quand tu vois la grandeur de Dieu, tu loues. Quand tu vois la petitesse de l'homme, tu loues, parce qu'elle est bonne. Quand tu vois la dignité que Dieu donne à l'homme, tu loues. Et surtout, quand tu vois Christ, tu loues. Et vous voyez, c'est ça la beauté de ce psaume. Comme le papa, il te prend par la main, il te fait lever les yeux, il te montre Dieu, il te montre l'homme, il te montre Christ et il te ramène à Dieu. Et si le psaume commence par la louange et se termine par la louange, alors la prédication doit faire la même chose. On va conclure comme David, en laissant la louange boucler la boucle. La fin ressemble beaucoup au début, car quand tu regardes Dieu, tu reviens inexorablement à la louange. Le psaume 8 te ramène à ce point où tu réalises deux choses en même temps. Dieu est immense, et pourtant il pense à toi. C'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre, besoin de se rappeler. Pour arrêter de montrer, de devoir prouver qu'on existe, de devoir prouver qu'on est quelqu'un. On est quelqu'un grâce à Dieu, par la grâce. Et quand on n'y arrive pas à montrer, qu'est-ce qu'on fait? On se dit qu'on ne vaut pas grand-chose. Mais le psaume 8 dit, il dit l'inverse. Ne flatte pas l'homme. Il est en train de décrire la grâce de Dieu. Il dit, tu es petit, mais tu n'es pas insignifiant. Tu es fragile, mais tu es porté. Tu es limité, mais tu es honoré. Ce n'est pas pour gonfler ton ego, c'est pour ancrer ton identité. La valeur de l'homme ne vient pas de sa taille, mais du regard de Dieu posé sur lui. Je ne dis pas ça pour vous motiver pour votre semaine. Ce n'est pas un discours pour se sentir mieux. Ce n'est pas un slogan, c'est juste une vérité spirituelle. Parce que Dieu ne te mesure pas à ta taille, mais à sa grâce. David nous montre un Dieu qui n'est pas seulement le créateur du ciel et de la terre, mais un Dieu qui se penche vers l'homme, qui s'intéresse à toi, qui te confie une mission, un Dieu qui te donne une dignité que personne ne peut t'enlever. Je le répète, mais on sera tous d'accord pour dire qu'on la vit rarement, comme si on avait reçu le manuel. On improvise beaucoup. Cette dignité, on la porte un jour, on l'oublie le lendemain, on la froisse, on la pose quelque part, on ne sait même plus où. Et parfois, on se contente d'une version en carton. Juste pour faire semblant. Bref, on oublie qui on est. Mais c'est là que Jésus entre en scène. Car ce psaume parle de lui, de l'homme parfait, de celui qui a retrouvé notre couronne perdue dans nos ruines, de celui qui a restauré la dignité humaine. La juste mesure de toute chose, ce n'est pas l'homme, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la conclusion du psaume, c'est pas l'homme est incroyable, mais Dieu est magnifique. Parce que tout ce que nous avons, c'est reçu. Rien n'est mérité. Tout est grâce. La louange est la seule réponse. Alors peut-être ce matin, tu es venu en te disant, je suis petit. Tu te sens vraiment petit ce matin. Tu te sens dépassé. Tu te sens oublié. À quoi je sers, moi? Ça vous arrive jamais de vous poser cette question? À quoi je sers, moi? Le psaume 8 te répond. Tu sers à refléter la gloire de Dieu. Tu sers à porter une couronne que Dieu t'a donnée. Tu sers à vivre sous le regard d'un Dieu qui t'aime. Et si tu veux vraiment savoir qui tu es, regarde à Jésus. C'est en lui que le psaume prend tout son sens. C'est en lui que la dignité humaine est restaurée, que la couronne retrouve sa place. C'est en lui que la création retrouve un roi. Et c'est pour ça que, comme David, nous aussi, on peut dire, éternel, que notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Car quand tu regardes le ciel, tu te sens petit. Mais quand Dieu te regarde, il voit Christ. Et là, tout s'éclaire autrement pour nous. Parce qu'une fois que tu réalises qui te porte, qui te garde ou qui te relève, tu ne peux que lever la voix et louer. Pour conclure, je ne veux pas inventer mes propres mots. Je vais laisser l'Écriture mettre sur nos lèvres la louange qui convient. Jude nous donne les mots pour ça. Jude 24, 25. Ce n'est pas le chapitre 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Merci.